Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal avec Marco Mounouba, la présentation.
Bonjour, les titres du journal. Désormais, les localités d'Nkamba et d'Ngombe Matadi sont électrifiées par le courant de la SNEL. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui a procédé depuis vendredi à l'inauguration de la ligne 70 KVA de Sangangombe Matadi et du poste de haute tension Kintadi. La société civile du Haut-Katanga plaide pour l'application du nouveau code minier. Il s'agit notamment du paiement de la redevance minière que doivent payer les entreprises minières. Cette question a été au centre d'une journée de réflexion organisée vendredi dernier à Lubumbashi. Et puis, au moins 15 tonnes de vivres ont été remis aux détenus de la prison centrale de Munzenze à Goma. Ces vivres proviennent de la récolte agricole de la concession pénitentiaire de Nyongera, inexploitée depuis plusieurs années, indique le ministre provincial de la Justice du Nord Kivu. Bonjour et bienvenue à tous. Ce journal part de la province du Congo central où les localités de Nkamba et de Ngombe Matadi sont désormais électrifiées depuis vendredi par le courant de la SNEL. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui a procédé à l'inauguration de la ligne 70 KVA de Sangangombe Matadi et du poste de haute tension Kintadi. Cette réalisation financée par la Banque africaine de développement et sur fonds propres de la SNEL rentre dans le cadre du programme des 100 premiers jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Michel Kifindangoy était sur place.
Le centre de Ngombe Matadi, situé à 50 km de Mbanzangongo avec ses 3000 habitants, et de Nkamba, situé à environ 22 km de Ngombe Matadi avec ses 8400 habitants, sont aujourd'hui électrifiés. Satisfaction du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo.
Les ouvrages financés dans le cadre de ce projet ont l'avantage de fournir aux populations de Ngombe Matadi et de Nkamba des meilleures conditions de vie et de promouvoir le développement de la province. La direction générale de la SNEL ne ménagera aucun effort de travailler pour garantir davantage l'électrification des milieux ruraux.
Pour les directeurs du cabinet du chef de l'État, ce projet n'est que le début d'un vaste programme d'électrification rurale en RDC. Vital Kamerhe.
Amener l'énergie à chaque entité administrative du territoire national, c'est permettre de donner à la population des opportunités de mettre en place des activités dans plusieurs domaines de la vie.
Après Ngombe Matadi et Nkamba, viendra le tour de l'Ouosi d'être alimenté en électricité dans un avenir proche, ajoute Vital Kamerhe, qui a par ailleurs inauguré un nouveau centre hospitalier en Nkamba.
Tenter de mettre un terme au conflit foncier assis sur l'arbitraire et sur l'abus du pouvoir dans la société congolaise. C'est pour cela qu'une commission est créée au sein du ministère des Affaires foncières. D'après le ministre Emmanuel Ilunga, qui met en place cette commission dénommée Étienne Tshisekedi, il s'agit de répertorier, de remettre dans leurs droits tous les citoyens ayant été déguerpis ou privés de leurs parcelles par les puissants à travers toute la République. Cette commission qui rentre dans un premier temps dans les 100 premiers jours du programme d'urgence du président de la République, selon le ministre Ilunga, elle devra donner donc un signal fort dans la lutte pour la justice sociale. Il l'a dit au micro de Jacques-Yves Molima.
C'est une commission pour rendre justice aux plus faibles, à tous ceux qui ont été spoliés injustement par le puissant qui se croit tout permis, qui arrache des parcelles des gens et qui met des familles entières dans la rue. Cette commission va aller dans le sens de la justice foncière. Des simples citoyens ont été délogés dans leur maison du fait qu'ils n'ont pas eu peut-être le temps de faire les certificats ou d'enregistrer leurs parcelles, et des gens véreux ont compris, ils ont enquêté, ils sont allés enregistrer en leur nom et ils leur ont opposé des certificats et ils les ont déguerpis. Nous pensons que ceux qui sont dans ces conditions-là, l'État doit les défendre. Et nous créons justement cette commission pour que toutes ces personnes puissent se signaler à nous et que l'État va tout mettre en œuvre pour qu'ils aient gain de cause.
Donc vous voulez dire que la justice du plus fort a été le moteur de tous ces conflits?
Je ne dirais même pas la justice du plus fort. Je pense que c'est l'arbitraire. Certaines personnes se croyant tout puissants parce qu'ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, soit parce qu'ils ont une position sociale très élevée et se sont permis d'abuser de leur pouvoir. C'est l'abus de pouvoir.
À Lubumbashi, la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans la décentralisation et le financement plaide pour l'application des dispositions du nouveau code minier. Il s'agit de la redevance minière que doivent payer les entreprises minières aux entités territoriales où elles sont implantées. Cette question a été au centre d'une journée de réflexion organisée vendredi par cette plateforme de la société civile du Haut-Katanga. Les détails avec vous, Madeleine Waila.
Cette problématique a été au centre d'une matinée d'échange organisée ce vendredi au centre de concertation de la société civile du Haut-Katanga à Lubumbashi. La question principale était de savoir pourquoi les entités territoriales dans la province du Haut-Katanga ne bénéficient pas de la redevance minière qui provient des entreprises minières. Et pourtant, le nouveau code minier donne la prérogative à ces entités territoriales de bénéficier que 15% sur les 40 que les entreprises minières rétrocèdent aux gouvernements provinciaux. Jean-Luc Kayoko, coordonnateur de la thématique de centralisation et du financement à la société civile.
S'il faut marcher pour que ça soit libéré demain, nous allons marcher. Nous commençons par cette déclaration que nous venons de faire en exigeant immédiatement la libération de la redevance minière dans le compte des ETD.
Cette démarche a été saluée par certains membres des entités territoriales présents à ces assises.
Qu'on nous donne ces fonds, nous allons les gérer et cela va contribuer au développement de nos communautés. Nous avons un plan local de développement à la Roachi.
Le gouvernement du Haut-Katanga affirme ne pas être responsable des retards enregistrés dans la mise en application de Lubumbashi. Madeleine Waila, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, cette fois-ci, au moins 15 tonnes de vivres ont été remis par le gouvernement provincial en faveur des détenus de la prison centrale de Mounzenze à Goma. Ces vivres sont essentiellement constitués de farines de froment et de haricots. La ministre provinciale de la Justice indique que c'est le premier lot de la récolte agricole de la concession pénitentiaire de Nyongera, en territoire de Rutshuru, qui est resté inexploité depuis plusieurs années. David Bakulo, directeur de cabinet du ministre provincial de la Justice, l'explique au micro de Gabriel Wamenya.
Depuis que Mme Jolie Feza Binti Moutia est à la tête du ministère provincial de la Justice, grâce à sa détermination, elle est en train de lutter vraiment contre la famine dans nos prisons. Il ne passe jamais deux jours sans qu'on ait décrit la famine dans nos différentes prisons. Mais vous allez constater avec moi qu'il y a de cela un bout de temps. Depuis que dans nos prisons en province, la famine vraiment ne se fait plus sentir grâce à l'exploitation rationnelle de la concession pénitentiaire de Nyongera. Ce qu'on est en train de décharger là-bas, c'est le premier lot destiné à la prison centrale de Goma. C'est en provenance du territoire de Rutshuru, c'est-à-dire la prison de Rutshuru a déjà été servie. Et donc c'est le gouvernement provincial qui donne ça.
Rappelons que la prison centrale de Mounzenze compte actuellement 2434 détenus, dont 56 femmes et 22 nourrissons. Dans la province du Bas-Ouélé, les violences conjugales sont monnaie courante ces derniers mois dans le territoire de Bouta, selon la dynamique pour un développement intégral pour la défense de la femme et de l'enfant en milieu rural. Au total, 26 cas de violences conjugales ont été enregistrés depuis le début de cette année. Le dernier cas remonte à jeudi vers la route Bassali, près de Bouta. Un homme s'en est pris à sa femme en lui assénant plusieurs coups. Une petite dispute entre conjoints était à l'origine de cet incident. L'ONG Difémir dénonce ces atteintes à l'intégrité physique des femmes et promet des actions concrètes pour décourager les auteurs. On écoute Espérance Kwaza, présidente de l'ONG Difémir. Elle a été jointe au téléphone par Godlive Omondo.
La Difémir est assez de dénoncer cette situation de violence conjugale. Ça ne met pas la femme dans ses droits. Le plus souvent, c'est entre et avec leur mari, autour de ce qu'ils ne mettent pas au monde. Comment vivre? Parfois, c'est avec le membre de la famille du mari. J'ai dit passer ici, ça doit être la 26e femme à venir pour qu'on l'accompagne pour les violences conjugales qu'elles sont victimes. Celle-là, c'était d'abord son mari a l'habitude de la frapper. Le jour-là, c'était à cause des poules et des coqs parce qu'ils sont au champ. Le mari a voulu qu'ils passent nuit ensemble avec ces poules là ou ces coqs là. Alors la femme a dit c'est pas bien au champ comme ça. Il y a des serpents qui peuvent entrer dans la maison. La femme a fait sortir les poules. Alors le mari est venu directement prendre la femme, commencer à les tabasser. Il a même gratté avec les ongles. Ok, la femme venait d'être opérée il y a 4 mois. Le mari là, nous allons l'approcher, faire voir que la femme a aussi ses droits. Et par après, il y a des fois, si la femme veut aller avec ça en justice, nous l'accompagnons aussi au niveau de justice.
Et pour terminer, l'ONG La Voix des Femmes Africaines, Vofansigle, a organisé depuis hier samedi à Kinshasa sa 3e édition des journées portes ouvertes. Vofa est un regroupement de 11 femmes congolaises, chefs d'entreprise. Cette édition est organisée en marge de la journée des droits de la femme. Selon Yvette Diomi, vice-présidente de Vofa, cette année est marquée par l'acquisition d'un laboratoire moderne et l'accompagnement de l'Office congolaise de contrôle OCC. Voilà, c'est la fin de ce journal sur Radio Okapi. Merci à vous tous de l'avoir suivi.